Let me open this. Particulièrement heureux ce soir, un jour que Dieu nous donne, un jour comme les autres. Bon, il y est dans le monde. On nous donne congé, nous en profitons,
n'est-ce pas,
pour justement nous rassembler autour de sa parole. Je crois que il n'y a pas de nouveau. Hein. Vous connaissez tous Frère Placide? Vous ne le connaissez pas? Ah ben, lève-toi, frère. Voilà. Voilà. C'est Frère Placide. C'est... Quand est-ce que tu es parti vers Namur?
C'était en 2001, je crois.
Ça fait sa date, hein? 24 ans. On s'assemblait ensemble ici, et puis le frère est parti à Namur, et puis il est parti au Congo, et il est revenu. Il est à nouveau du côté de Namur. C'est un coin que tu aimes bien?
Oui, c'est un coin que j'aime bien.
C'est un coin que j'aime bien. Voilà. Et il est venu prendre le repas avec nous. Et éveiller avec nous. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Je regarde ceux qui ont demandé la veillée, qui ne sont pas là. On verra. Ceux qui ont demandé qu'il n'y ait pas, eux, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont demandé qu'il y en ait une, ils sont obligés d'être là. Ah oui. Et Frère Mathieu, s'il n'était pas là pour la Sainte-Seine, là, j'allais lui en vouloir. Il nous fait changer tout un programme. Hein. Je te bénisse, Frère Mathieu. Merci. Myriam veut absolument que je lui dise bonjour. Voilà. Bonjour, Myriam. Dieu te bénisse. Elle n'arrête pas de me sourire, de me faire de grands sourires. Ah, OK, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Voilà, cette année se termine. 2025 se termine. Elle a eu ses bons côtés, elle a eu ses côtés moins bons, comme toutes les années. Elle a été difficile pour beaucoup, peut-être un peu moins difficile pour d'autres, peut-être plus difficile encore pour certains. Une nouvelle année vient, cela ne veut pas dire que les choses, vous savez, les événements ne respectent pas les années. 2026 vient, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve, mais Dieu sait. Ça va? Dieu sait, et nous soyons tout simplement armés pour passer cette année-ci, si elle se termine, cette nouvelle année qui va commencer. Passons-la en vainqueur, devant, dans les montagnes, sur les montagnes, dans les vallées, dans les plaines, soyons toujours vainqueurs, que ce soit sombre vallée ou des vallées moins sombres, bien éclairées, soyons toujours en chrétien, en vainqueur. Nous allons donc prendre la Sainte-Seine, et puis nous allons procéder à la veillée. Après, je n'ai pas le programme de la veillée, je n'y suis pas, mais la Sainte-Seine, on va la prendre, et puis il y aura le lavage des pieds. Peut-être que l'année commencera pendant la prédication ou pendant que nous sommes en train de prendre la Sainte-Seine, mais je vous souhaite à tous une bonne année dans le Seigneur. Une bonne santé pour tous. Ah, que le Seigneur pose sa main bénissante sur vous. Et pour ceux qui attendent des événements exceptionnels, que leur attente puisse se rencontrer, n'est-ce pas, leur leur désir. Ça va? Ça va? Bon. Ouais. Bien. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes les bénédictions que nous avons eues, pour toutes les bonnes choses que nous avons eues et les mauvaises. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous soyons encore debout aujourd'hui. Nous allons prier. Père céleste, nous nous approchons de ta table selon l'ordre que tu as donné. C'est une institution qui vient de toi et nous voulons le faire en enfant obéissant. Nous te sommes reconnaissants de ce que cette année s'achève, que nous soyons encore de ce côté-ci du temps. Si tu nous as donné ce temps, c'est pour que nous puissions mettre cela à profit pour encore plus nous rapprocher de toi. Te remercions de nous avoir permis de pouvoir, en pourvoyant en toutes choses, en cette assemblée. Nous avons été dans le confort, nous sommes rassemblés, nous avons eu la liberté pour cela et nous te sommes reconnaissants. Il y a certains pays où ils doivent s'assembler en cachette. Nous le faisons la main levée avec un grand écriteau là devant, au-dessus de la porte, disant que c'est une assemblée chrétienne. Merci pour cette liberté. Nous te demandons d'assister tous ceux qui vivent dans les endroits où cela est difficile. Mais ils tiennent bon. Nous savons que tu les as équipés, car tu équipes chacun selon le combat par lequel il doit passer. Parce que tu es celui qui nous aide. Lorsque nous portons tous, chacun sa croix, nous comptons sur toi pour arriver à bon port. Nous te remercions aussi pour les prières que nous t'avons adressées au sujet des nôtres, que tu as exaucées. Vraiment, c'est le cœur rempli de reconnaissance que nous te disons merci. Parce que parfois, nous pensions que cette année allait se terminer mal, mais tout se passe bien, tout est bien. Béni soit ton Saint-Nom. Pour ceux qui ont le cœur meurtri, tu es aussi celui qui console, tu es celui qui redonne la force. Tu nous encourages sur le chemin. Pour tous nos péchés, nous te demandons pardon. Aide-nous à vivre en meilleur chrétien pour donner un meilleur témoignage de toi partout où nous allons. Pas seulement de la bouche, mais dans nos vies. Que nos vies se rapprochent encore davantage de celles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Façonne-nous à ton image. Que nous puissions tous manifester notre position de fils de Dieu. C'est ce que la création attend. Et elle soupire après cela. Pour tous les bien-aimés que nous n'avons pas vus depuis longtemps, qui sont là, te disons merci de les avoir gardés. Merci d'avoir été avec eux. Certainement, s'ils sont là ce matin, ce soir, c'est pour te remercier. Ouvre la parole pour nous pendant le moment où nous prendrons le pain et le vin. Nous comptons sur ta présence et nous comptons sur ta grâce pour franchir ce cap de l'année 2025. Cela nous rapproche de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous être prêts quand il viendra. C'est cela notre prière pour ceux qui sont alités. Nous pensons à eux, ils auraient bien voulu être là. Mais s'ils sont au lit, ou s'ils ne peuvent se déplacer, toi tu sais pourquoi. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ils sont dans l'inconfort des déplacements. Que tu les bénisses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 14. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, c'était des rois qui s'étaient coalisés. Alors ils ont fait une coalition. Ils se sont assemblés aux quatre. Si vous voulez le voir, regardez au verset premier, vous le verrez. Des rois qui étaient avec Kedorlaomer. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi, donc pour aller se battre. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. En fait, le roi de Sodome est venu à la rencontre d'Abraham. Il avait été battu par les rois. Et Abraham était parti rechercher son neveu Lot, n'est-ce pas, que ces rois avaient amené avec eux. Ce que nous venons de lire ici, où nous voyons Melchisédek qui fait apporter du pain et du vin, c'est un peu une préfiguration de la Sainte Cène que nous allons prendre, a été prise à un moment bien particulier. Elle a été prise après la victoire d'Abraham sur des rois, des dominations, des autorités. Ces gens qui vous commandent, qui ont le pouvoir. Parfois, ils se donnent le pouvoir sur votre vie. Il décide votre exécution. Il décide votre privation de liberté. Il décide votre libération. Il décide plein de choses sur vous. Et vous devez leur être assujetti. Pour ce qui est des dominations spirituelles, il y a des autorités spirituel qui vous oblige à faire des choses qu'il ne faut pas. Il t'amène à ça. On a déjà entendu des assassins dire « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'était plus fort que moi. » Quand vous apprenez que quelqu'un a été assassiné à coup de couteau, vous apprenez que la victime a subi 17, 20, parfois même 30 coups de couteau, alors qu'un seul aurait pu suffire. Mais il y a comme une force, il y a comme une domination en eux qui le pousse à tuer de manière atroce. Ces rois, ces autorités nous font faire des choses qu'on ne veut pas. Un peu comme Israël en Égypte. Il y avait des maîtres de corvée sur eux. Et quand Israël a quitté l'Égypte, Dieu a ordonné la Pâque. La première Pâque a été prise lors de la sortie d'Israël, avant la sortie d'Israël Il devait prendre à la hâte, parce qu'il devait partir à la hâte. Lorsque les Égyptiens, sous la puissante main de Dieu, les ont chassés. Ils sont partis. Ensuite, les Égyptiens les ont poursuivis. Jusqu'à la mer Rouge, Dieu a ouvert la mer Rouge, Israël est passé. Et les Égyptiens ont été noyés. Ils les ont suivis, ils ont été noyés. Tous ces maîtres de corvée, tous ces gens qui faisaient faire aux Israélites n'importe quoi, ont été noyés dans la mer Rouge. La mer Rouge est une figure du sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est rouge. Cette mer Rouge. Et le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, a effacé tous les péchés. Tous ces maîtres de corvée. Celui qui me faisait boire plus qu'il n'en faut. Celui qui me faisait manger plus qu'il n'en faut. Les excès du manger et du boire. Celui qui me faisait mentir. Celui qui me faisait haïr certaines personnes. Celui qui me faisait médire. Où je connais quelque chose, j'ai de la peine à garder cela en moi. Je dois absolument raconter, entre guillemets, pour la gloire de Dieu. Comme beaucoup le disent souvent. Le diffamateur qui me pousse à diffamer. Ceux qui me poussent à me plaindre, me poussent à blasphémer parfois. Eh bien, c'est là que, cependant, après avoir pris la Pâque, qu'ils ont traversé la mer Rouge en vainqueur. Ils ont chanté des cantiques de victoire de l'autre côté de la mer Rouge. Ici, Abraham venait d'une victoire. Une victoire sur des rois qui dominaient dans la région. Et sa victoire était un véritable triomphe. C'est-à-dire une victoire éclatante. Jésus-Christ a institué la Sainte Cène pendant la Pâque, avant un autre triomphe. Colossiens, chapitre 2. Abraham a pris le vin et le pain après un triomphe. Jésus-Christ a institué cela avant un triomphe. Colossiens, chapitre 2. Verset 14. Ce qui est arrivé là, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dites amen à ça. Et qui subsistait contre nous, cette ordonnance. Et il a éliminé cette ordonnance en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quel jour de gloire que nous avons chanté quand Jésus m'a sauvé. La croix n'est pas un symbole de défaite. La croix, au pied du maître que nous venons de chanter, c'est un symbole de victoire. Non seulement victoire sur des dominations et des autorités, non seulement des dominations et des autorités ont été vaincues, c'était certes de grands et redoutables ennemis, les Kedorlaomer et consorts, c'était de redoutables ennemis, mais il y a un grand ennemi. Notre plus grand ennemi, en ce qui nous concerne. Le plus grand ennemi de William Marion Branham, c'est qui? C'est William Marion Branham lui-même. Mon plus grand ennemi à moi, c'est moi-même. Ce jour-là, mon grand ennemi a aussi été vaincu. Je suis appelé maintenant à devenir semblable à Christ. Par la grâce de cette victoire. Et cette victoire, Paul dit qu'il a obtenue à la croix. Galates chapitre 2. Verset 20, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Dites amen à ça. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pour les vaincus, désormais, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Au chapitre 5 de Galates toujours, il dit, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » S'il y a une chose difficile dans la vie, c'est bien ça. Crucifier ses passions et ses désirs. Vaincre cela, c'est une grande victoire. Pourquoi je voudrais intituler cette petite exhortation ce soir? La plus grande victoire jamais obtenue. C'est la victoire sur moi-même. La victoire sur Frère François, ce rancunier, ce menteur, cet impudique, cet adultère, ce frère. Vous voyez? Pouvoir vaincre celui-là avec ses passions, des choses qu'il n'arrive pas à vaincre, des choses qui le dominent, qui fait sa personnalité et qui justement a suscité le fait qu'il y ait un acte de condamnation écrit contre lui. Ça va? Et cet acte de condamnation vous prive de votre liberté. David, il avait cette passion-là, cette faiblesse qu'il avait. Quand il a commis sa faute avec Bathsheba, David avait perdu sa liberté. Surtout, vous savez, ces choses-là, un péché entraîne toujours un autre. Après avoir été Bathsheba, elle a poussé à tuer le mari de Bathsheba. Il est devenu assassin. Il croyait, en tuant Bathsheba, effacer sa faute. En tuant Uri, pardon, il pensait effacer sa faute. Que personne n'allait en parler. L'officier qu'il avait envoyé lui était fidèle. Il n'était pas médisant. Il n'en a pas parlé. Mais même s'il n'en a pas parlé, peut-être qu'en Israël, on n'a pas su ce qui se passait, mais il y a un Dieu dans les cieux qui a vu ce qui s'est passé. Et David, lui qui disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, David a perdu sa joie. La harpe qu'il jouait, il n'arrivait plus à la jouer. Dites amen à ça. David, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de fausses notes aujourd'hui? Mon péché constamment devant moi. Psaume 51. Il a un problème, David. Verset 2. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ah, ça t'embête tant que ça. C'est embêtant. C'est lourd une transgression. Lave-moi complètement de mon iniquité. N'en laisse pas un petit peu. Ça va me condamner. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Eh bien, ce jour de gloire, que s'est-il passé? Dieu a effacé nos transgressions. Pour autant que nous reconnaissions la grâce qui nous est accordée. Pour autant que nous reconnaissions, comme David, nos transgressions. Au verset 5, il dit, « Je reconnais mes transgressions. » Ce qui fait prendre la Sainte Cène, c'est un signe de victoire dans votre marche. C'est un signe de triomphe. Vous qui voulez prendre la Sainte Cène aujourd'hui, vous la prenez pourquoi? Parce que vous ne sentez aucune condamnation en vous. Celui qui se sent condamné, il va fuir. Dites amen à ça. Il va fuir, il va prétexter. 31 décembre, donc je ne suis pas là. Je suis fatigué. C'est pas possible, 31 décembre. En fait, il y a quelque chose qui le condamne. Par contre, celui qui vient la prendre, il est clean. À moins que il soit vraiment déjà loin du Seigneur. Un peu comme Judas, il était loin. Il prenait la Pâque avec les autres. Mais le Seigneur lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le. Il a mangé le pain. C'est pendant le repas qu'on lui a dit, fais-le. Il avait déjà commencé le repas. Vous prenez la Sainte Cène, vous célébrez le triomphe que vous avez sur vous-même. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui fuient la Sainte Cène, ce sont ceux qui ont été vaincus quelque part. Et ils ont peur de quelque chose. Il y a un cantique que l'on chante en lingala. Examine-toi très bien. J'aurais bien voulu que la chorale chante ça ou même Frère Tomou nous fasse chanter ça le jour de la Sainte Cène. 1 Corinthiens 11. verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Quand un croyant lit ça, il a vite peur. Il regarde derrière lui les choses qu'il a faites les jours avant. Quand il dit cela, à moins qu'il soit un croyant, mais un croyant, il va lire, celui qui prendra le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Cette culpabilité-là, on n'en veut pas. Amen. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Pas besoin qu'on vienne vous le dire. On n'avait pas non plus besoin de dire à quelqu'un, « Frère, tu n'es pas digne de prendre. Qui es-tu, toi, pour savoir que l'autre est digne ou il ne l'est pas ?» Chacun doit s'éprouver soi-même. Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Le vaincu a peur du jugement. Il t'amène à ça. Comment un homme, c'est dans Job ça, pourrait-il paraître juste devant Dieu? Si nous passons par le jugement, mais nous sommes fichus. Jésus-Christ a trouvé un moyen pour que nous ne soyons pas jugés. Vous ne passerez plus en jugement. Mais vous êtes passé de la mort à la vie. À ce moment-là, vous prenez, vous pouvez vous asseoir comme Abraham s'est assis avec Melchisédek. Et il a pris le pain, tout à fait à l'aise. Et un chrétien, pour ne pas dire un vrai chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est en Christ. Celui qui est en Christ, il est toujours dans une position de triomphateur. Toujours. 2 Corinthiens 2. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, il t'amène à ça.
Amen.
Toujours. Donc, à tout moment, lorsque quelqu'un est en Christ, vous le surprenez, il y a Sainte-Seine, il va la prendre. Et pas dire, attends, je dois aller arranger. Je ne dis pas que quelqu'un qui est en Christ, ça, il ne trébuche pas. Ça lui arrive de trébucher. Mais quand il trébuche, il ne chicane pas pour arranger la chose. Il fait tout pour être en paix avec Dieu. Il fait tout pour que son cœur soit en paix. Pas besoin de se cacher. Toujours triomphateur. Il nous fait toujours triomphé en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est Dieu qui nous fait toujours triompher. C'est Dieu qui vous donne la victoire sur la médisance, sur la calomnie. Vous connaissez quelque chose que le premier des journalistes voudra absolument mettre cela en titre, mais vous, vous gardez ça pour vous. Vous priez pour la personne. Que lorsque vous vous retrouvez devant quelqu'un, ou ce que Satan vous demande de ne pas aimer, vous l'aimez quand même. C'est plus fort que vous. Mais tu ne sais pas ce qu'il a dit sur toi. Hein? Tu ne sais pas ce qu'il t'a fait. Je ne le sais pas. Que Dieu le bénisse quand même. Il n'a pas d'histoire. Pour lui, la Sainte Seine, c'est une célébration. Ce n'est plus lui qui vit. Christ a été tenté de toutes les manières possibles. Regardez, dans Luc 4. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Dans Luc 4, il y a eu la tentation du verset 1er au verset 12. Nous voyons au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Eh bien, quelqu'un qui n'est pas bien assis, le diable trouvera le moment favorable. Mais avec Christ, il a cherché le moment favorable pour le tenter, pour le faire tomber. Il a cherché, même sur le chemin de Golgotha. Il a tout essayé. Mais Christ n'a pas bronché. Il en est sorti vainqueur. Il a vaincu. Et il y a une promesse pour celui qui vaincra. C'est de régner avec lui. Et voilà, me dit, pour régner, parce que Christ, pour régner, il a souffert. Hébreux 5, n'est-ce pas? Il a souffert. Il dit, il n'y a pas de règne sans souffrance. Quelqu'un qui règne sans avoir souffert, c'est démoniaque. Qu'on ne vous donne pas un trône trop facilement, vous ferez n'importe quoi. Souffrez pour l'avoir. Jésus n'aura pas de personne, celui qui vaincra, je lui donnerai, il sera assis avec moi sur le trône. Ce n'est pas celui qu'on aura poussé dans un tuyau, n'est-ce pas? Et puis arrivé de l'autre côté, il dit, j'ai vaincu. Non, il a combattu. Corps à corps avec les démons. Corps à corps avec l'adversité. Il est passé, David est passé par de sombres vallées, même la vallée de l'ombre de la mort. Si en Christ vous triomphez toujours, la Sainte Seine, vous la désirerez toujours. Parce que rien ne vous condamne. Ceux qui aiment retarder les dates, c'est parce qu'ils ont une condamnation. Alors ils veulent aller arranger le problème. Non. Arrange le problème. Parfois ça coûte hein, d'arranger un problème. Mais justement, il ne faut pas que l'arrangement soit gratuit. Dites amen à ça. L'arrangement doit vous coûter. Si ça ne vous coûte pas, c'est que ce n'est pas un arrangement. Après avoir dit un mensonge, allez reconnaître, frère, c'était un mensonge. C'est difficile, hein? Mais justement, il faut vaincre ça. Amen. Après avoir arrangé cela, ok, vous venez, vous prenez la Sainte Seine en vainqueur. Sinon, au moment où vous allez prendre le pain, ou la coupe, ouf, j'ai menti au frère Sébastien. Seigneur, pardonne-moi. Non, c'est pas. Vous n'avez pas menti à Dieu. Vous avez menti au frère Sébastien. C'est le frère Sébastien qui doit vous pardonner du mensonge que vous avez fait. Vous, avec Dieu, vous êtes en porte-à-faux. Pourquoi ? Parce que Dieu vous a dit ne vous mentez pas les uns aux autres. Maintenant, le mensonge qu'il faut arranger, ce n'est pas avec Dieu. Seigneur, j'ai menti à frère Sébastien, je lui ai dit que c'était blanc alors que c'était noir. Non. Il faut aller trouver le Sébastien. Quand le frère, on lui téléphone pour l'histoire des impôts. Papa, c'est pour toi. Dis-lui que je ne suis pas là. Ok. Mon papa n'est pas là. Et puis, il avait un ministère à exercer. Hein. Il devait, on lui téléphone, il y a un malade ici, viens prier pour. Il est vite parti pour prier. Il arrive, il prend sa Bible, il veut s'installer, il veut prier. Ça ne passe pas. Bien, mais excusez-moi, mais j'ai un problème à régler. Et puis je viendrai prier pour les malades. Ça, c'est mon péché constamment devant moi. Ah. Pourquoi si vous êtes clean? Si l'acte d'ordonnance en ce qui vous concerne, qui vous condamne, a été effacé, bienvenue à la table du Seigneur. Jésus a dit qu'il en prendra à nouveau dans le royaume. Hein? Et nous boirons de la vigne, n'est-ce pas ? Le nouveau vin, n'est-ce pas ? Il a dit qu'il en prendra dans le royaume. Mais en attendant, pendant que nous sommes ici, pendant que nous l'apprenons, nous célébrons toujours notre victoire. Et Paul dit, nous annonçons sa venue chaque fois que nous l'apprenons. Et quand j'annonce sa venue, Jésus vient, il arrive. Vous savez, ça fait une année en moins. Ça se raccourcit, on se rapproche de sa venue. Alors moi, je suis content. Je suis content pourquoi ? Parce que je suis prêt. Il n'y a rien qui me condamne. Si je dis, Seigneur ne vient pas encore maintenant, c'est que je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce qu'il a ? François nous rabattre les oreilles avec le Seigneur qui vient bien. Il vient bientôt. Le temps se raccourcit. Ça peut être demain. Alors, mes bien-aimés, si vous n'êtes pas encore en ordre, mettez-vous en ordre. S'il y a des choses à arranger, arrangez cela. Et comme cela, vous pouvez fêter une fin d'année très bien, en prenant la Sainte-Seine, en étant heureux pour toutes les victoires que vous avez eues acquises pendant l'année 2025. Amen. Il y a certaines choses que vous pensez que ce sont des défaites, ce ne sont pas des défaites. Si vous avez réparé, ça a été effacé. Vous êtes libre. Et réparer la chose. Pendant que nous la prenons, nous célébrons notre victoire et nous annonçons sa venue. Amen. Vous êtes heureux? Que Dieu vous bénisse. Cette plus grande victoire jamais obtenue, c'est la victoire acquise sur vous-même. Vous étiez médisant avant, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Vous étiez impudique avant, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Vous étiez rancunier avant, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Vous étiez diffamant, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Ces choses sont passées. Vous êtes une nouvelle personne. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, qui vit en vous. Et nous allons. Père tombeau. Je m'en rends. Tu connais ce cantique? Les alaïs moukoloya. N'est-ce pas? Père tombeau, viens. Je m'en rends.